Vous écoutez France Culture.
Les vendredis de la philosophie, aujourd'hui Philosophie en situation, présenté par François Noudelman. Notre sujet d'aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à André Gortz, un philosophe pour l'avenir. André Gortz, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres qui relèvent autant d'un vaste projet philosophique que de la critique sociale. Je voudrais revenir sur ce parcours intellectuel qui mène de votre premier ouvrage, Le Traître, écrit dans les années 50, à votre dernier livre, L'Immatériel, paru chez Galilée en 2003. Je ne vous ferai pas offense en évoquant la réception singulière de votre pensée, connue d'un petit nombre d'admirateurs, souvent d'ailleurs plus à l'étranger qu'en France. Sartre, pourtant, vous a considéré très tôt comme un des rares penseurs à faire un usage créateur de sa philosophie. Mais vous vous tenez depuis toujours dans une extrême réserve, une très grande discrétion, qui n'est d'ailleurs peut-être pas forcément une qualité d'âme, mais un choix existentiel, ou peut-être aussi un malaise constitutif à l'égard de toute identité. On sait juste que vous êtes né en Autriche, à Vienne, en 1923, que vous avez dû émigrer en Suisse en 1939, que vous avez été journaliste à l'Express, un des fondateurs aussi du Nouvel Observateur, un des concepteurs aussi les plus actifs de grands numéros des temps modernes. Mais vous avez brouillé les pistes en multipliant les pseudonymes. Vous n'acceptez pas les interviews et je vous remercie d'ailleurs beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, dans votre maison. Vous préférez laisser vos idées se développer toutes seules. Elles sont d'ailleurs souvent reprises, sans citation, des années plus tard, 10 ans plus tard par exemple, comme votre réflexion critique sur le travail, la baisse du temps de travail. Car vos propositions sont discutées depuis longtemps, dans des milieux non seulement intellectuels, mais aussi syndicaux et politiques. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de reprendre certaines d'entre elles, dans la mesure aussi où elles participent d'un projet existentiel où la question de la subjectivation est essentielle, c'est-à-dire cette possibilité de dire « je », de parler, d'agir en tant que sujet. Alors, la prise de parole par un sujet d'énonciation, ça a été la matière de votre premier livre, dont je voudrais d'ailleurs citer un passage qui éclairera aussi pour nos auditeurs la difficulté pour vous de vous définir, mais en même temps, l'enjeu philosophique et pratique d'un projet de réappropriation de soi. Je vous cite, donc c'est à la fin du Traître. En deçà de toute considération théorique, il a horreur du moi. Plus simplement, il n'a pas de moi, pas de caractère, pas de goût affirmé, sinon celui de s'effacer. Pas cette aisance de l'homme à l'aise dans sa peau. Pas de spontanéité, pas de personnalité. Pour les autres, il ne sort d'un silence mystérieux que pour se manifester comme intelligence théorique, ou, mise en confiance, pour jouer de ses instruments de communication, pour jouer du langage par le calembour, pour jouer de sa voix par des bruits de moutons, de porcs et de canards, pour jouer de son corps par une démarche ou une gesticulation grotesque. Ces jeux ont un fond d'ironie. Il nie la communication qu'il opère et détruit les moyens de communication par la manière dont il les emploie. En somme, il ne sort du silence que pour faire du silence par des communications autodestructives où il restait plongé par l'impersonnalité de son discours théorique. Ce n'est pas assez que de parler d'horreur du moi, il a la terreur de l'identification. Alors, André Gortz, si vous voulez bien, on va revenir peut-être sur cette terreur. Il ne s'agit pas pour moi de faire un portrait de vous ni de vous identifier, mais de revenir sur cette question quand même fondamentale de la possibilité de dire « je ».
Je crois que tout homme naît sujet dans son enfance et cesse de pouvoir l'être grâce à l'éducation. L'éducation, en tant que socialisation, est l'apprentissage que vous êtes un autre et non pas vous-même. Que vous devez vous définir, déjà à travers le langage, comme celui qui a commun avec les autres un être autre. L'éducation vous apprend que vous êtes parlé par le langage et ne le parlez pas. Vous n'avez pas à dire, vous avez à être dit. Et c'est la reconquête de ce qui a été, pour moi et sûrement pour d'autres, l'expérience philosophique fondatrice de l'enfance, à savoir l'étonnement, qui est pour moi le chemin nécessaire pour accéder à la fois au statut de sujet et à la capacité de philosopher.
On comprend bien quand même que cette réappropriation, elle passe justement par la possibilité de dire « je », mais en même temps, ces structures, par exemple langagières, est-ce qu'elles vous paraissent comme des aliénations ? Est-ce qu'on peut employer le terme d'aliénation pour évoquer justement cette constitution du sujet par un ensemble de structurations que c'est langagières ou sociales, donc qui lui permettent justement de s'instituer aussi socialement.
Le langage est aussi bien un outil d'aliénation qu'un outil de désaliénation. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Et l'invention langagière dont vous êtes capable. Je ne peux pas écrire quelque chose, mettons, de banal ou de stéréotypé. Je ne peux même pas le penser. Pour arriver à penser, il faut que, si vous voulez, je travaille le langage de façon à me l'approprier. L'expérience philosophique fondatrice pour moi, qui est traversée dans l'enfance, c'est l'étonnement. L'étonnement que les choses soient telles. Et pas seulement l'étonnement, mais aussi, vous devez, j'appelle ça une expérience existentiale, au terme heideggerien, avoir eu la terreur de découvrir que l'être est. Et ce qu'on vous apprend par l'éducation, c'est de voir les choses d'une certaine manière, de les voir définies par les autres comme devant être ce que les autres les voient être. Mais avant de savoir parler, l'enfant n'est que étonnement et terreur d'être englouti par ces choses innommables et non pensables dont il est assiégé. J'ai des souvenirs qui remontent à un stade d'avant le langage. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé à pouvoir pratiquer un cogito réflexif.
Dans cette expérience du langage, il y a aussi pour vous, André Gortz, l'épreuve aussi des langues étrangères. D'ailleurs, vous l'évoquez. Pour vous, ce passage-là, il a été aussi une manière de traverser des identités, donc dans la manière de parler aussi, et de vous situer par rapport à des cultures, parce qu'on sent bien dans le traître, effectivement, que vous êtes sans arrêt en trahison, en décalage, donc à la fois dans une désappropriation, une réappropriation par d'autres langues. Est-ce que vous pourriez évoquer cette expérience de l'altérité du langage?
Elle est première pour moi, avant même que j'aie eu une autre langue que l'allemand. Je trouvais que la langue est contingente. Et je me demandais, si les gens appelaient poire ce qui est une pomme, est-ce que la pomme deviendrait poire ? C'est-à-dire que la nomination est un acte arbitraire, est un coup de force. Et par la suite, donc, j'ai appris le français à l'âge de 5 ans, et j'ai oublié l'allemand. J'ai fait de mon mieux pour oublier l'allemand. Je l'ai retrouvé à partir de 83, grâce à des Allemands qui m'ont envoyé un quart pour discuter avec eux. Et en même temps, comme j'ai épousé une Britannique, une Anglaise, il y a 55 ans de ça, j'ai appris l'anglais. Et je constate qu'on ne peut pas dire la même chose dans des langues différentes. Et que les outils conceptuels qu'une langue vous livre vous permettent de construire une pensée différente de ce que vous avez dans une autre langue. J'ai dû refaire des traductions, par exemple en allemand, et je les ai réécrites, et j'ai réappris l'allemand aussi de cette façon, et j'ai constaté que ce que la philosophie ou la sociologie allemande m'apportait comme outil conceptuel permettait de penser mieux ce que j'avais essayé de penser en français.
Et en même temps, c'est assez frappant de voir que vous avez pu rejeter, désapprendre l'allemand, qui est votre langue maternelle, comme on dit.
Oui, c'était un divorce avec ma mère, si vous pouvez dire.
Oui.
Je me suis libéré de ma mère à travers la langue.
Justement, vous vous définissez dans le traître comme étranger à tous les peuples et à toutes les cultures. Est-ce que cela ne participe pas un peu, en même temps à une sorte de fiction, mais nécessaire à la réappropriation ou à l'affranchissement d'abord de soi, la fiction de l'être pour rien, venu de nulle part. Est-ce qu'on peut le tenir cela, on est quand même toujours dans un réseau de détermination familiale, culturelle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité pour vous de vous penser comme, en quelque sorte, affranchi de toute origine ?
Le passage que vous avez lu et ce que vous venez de dire se rapporte à celui que je fus avant d'écrire Le Traître. N'est-ce pas ? Et Le Traître a été la catharsis. Le Traître m'a fourni les outils pour remanier tout ça et ne plus me définir comme être de nulle part, et, etc., étranger à toutes les cultures. Mais cela dit, après ce que je vous ai dit, dès l'enfance, j'avais un recul réflexif par rapport à moi. Je ne peux pas vous expliquer d'où ça venait, car c'était bien avant que j'aie fait l'expérience du conflit culturel entre mes deux parents. Donc, c'est ce...
Il faut le rappeler pour les éditeurs, le conflit culturel, c'est donc entre votre mère autrichienne et votre père juif.
C'est ça. Donc, ma mère était... Même elle était née en Allemagne, elle avait été élevée dans des écoles allemandes, et elle avait des penchants antisémites visibles. Donc, j'avais, par la suite, évidemment, j'ai toujours eu une distance par rapport à moi-même. Et cette distance demeure par rapport à tout ce que je fais et dont je fais l'expérience. J'ai dit une fois à un ami, dans tout ce que j'ai fait, par exemple de rester dans un même journal pendant 20 ans, je peux m'en détacher du jour au lendemain sans grand regret. Il y a une seule chose essentielle de ma vie, c'est la dame que vous voyez à côté, qui s'appelle Dorine, qui s'appelle Kay dans Le Traître, et sans laquelle je ne serais pas arrivé où je suis.
Donc il y a l'idée comme ça de pouvoir aussi partir très vite, prendre vos valises, partir sans attache, c'est-à-dire une sorte de trahison à tout ce qui nous détermine, et la seule fidélité, c'est à ce qu'on choisit, c'est ça ?
Je ne serais plus capable de prendre mes valises, de partir maintenant. C'est-à-dire que je me suis attaché à des lieux, à une culture environnante, à des amis. Je suis plus français qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas naviguer entre les cultures, mais me sentir également à l'aise dans l'une ou dans l'autre.
Et est-ce que vous pourriez dire un mot de votre usage des pseudonymes ? Parce que même André Gorz, c'est un pseudonyme. Est-ce que vous avez cherché à fuir en quelque sorte le patronyme aussi ? Donc vous évoquiez la rupture avec votre mère, mais bon, le patronyme, c'est une référence aussi paternelle forte, évidemment. Ou est-ce que c'est une manière de déjouer constamment l'identification ? Est-ce que vous ne vouliez pas qu'on vous identifie à un auteur avec tel nom ? Ou la possibilité pour vous de multiplier vos jeux d'énonciation ?
C'est une longue histoire. Un jour, quand j'avais 7 ans, je suis arrivé à l'école. L'instituteur, comme tous les jours, a appelé par ordre alphabétique les 42 élèves qu'il arrivait à gérer. Et il a appelé Horst.
Oui, votre nom de naissance, c'est Gérard.
Tout le monde s'est retourné pour savoir qui c'est ce type-là. Parce que j'étais né Hirsch. Donc déjà, dans l'enfance, mon rapport à l'identité nominative a été détruite. C'est-à-dire, je n'étais pas plus Hirsch que j'étais Horst, j'étais n'importe quoi. Le nom était contingent, comme tout le reste. Vous avez renforcé mon sentiment de la contingence. Le premier journal dans lequel j'ai travaillé, qui était une éducation fantastique, j'avais à faire une page entière de revue de presse dans un journal qui, à l'époque, avait été fondé pour empêcher la naissance d'un concurrent de France Soir. Ça s'appelait Paris Presse. Le tirage était limité contractuellement à 150 000 exemplaires. Et j'avais affaire à une page entière de revue de presse. J'ai signé de mon vrai nom un seul article. C'était un reportage que j'avais fait à Vienne en 1951. Et ensuite, on m'a dit, tu ne peux pas garder un nom allemand. La guerre est trop proche. Les Français ne supporteraient pas de voir un journaliste allemand écrire dans ce journal. Alors j'ai traduit mon nom, Horst von Bosky. En 55, j'écrivais Le Traître, j'étais à l'Express, j'avais demandé ma naturalisation. C'était l'époque la pire de la guerre froide, de la chasse non seulement communiste, à tout ce qui avait un semblant de gauchisme, de subversion, de ce, etc., etc. Je me suis dit, si je signe ce livre, Le Traître, de mon vrai nom, j'aurai jamais la naturalisation. Donc j'ai pris un pseudonyme et j'ai eu la naturalisation très vite. Donc je me suis dit, pourquoi ai-je choisi Gortz? Parce que je cherchais quelque chose et je me suis tombé sur des jumelles de l'armée austro-hongroise que m'avait légué mon père. Et dessus, il y avait Gortz. C'était la marque de fabrique, donc de ces jumelles pour toute l'armée, fabriquées dans une ville qui en allemand s'appelait Gortz, en italien Gorizia et en slovène Gorica. C'est bien, ben voilà. Oui. Trois identités pour la même ville, ça me convient parfaitement. J'ai pris
Gortz. Oui. Je croyais que le nom du père avait été renversé par une sorte d'anagramme aussi. Gérard Hortz et André Gortz.
Oui, moi, j'aime bien les noms monosyllabiques.
Oui, oui, oui. Donc c'est un nom qui vous permettait de voir avec des jumelles allemandes. Je voudrais évoquer justement une rencontre avec. Quelqu'un, un philosophe qui, je dirais, a participé aussi de ce même rapport à l'identité, à l'origine, à la famille, qui est Sartre. Parce que c'est une personne quand même qui a joué un rôle très important aussi pour vous. Dans vos livres, vous évoquez même le dieu Sartre. Vous aviez une grande admiration pour lui. Ça a été une rencontre donc très importante et on comprend évidemment que Sartre était d'emblée, si je puis dire, un peu en empathie par rapport à votre travail. Et il vous a consacré une préface assez extraordinaire. Peu de personnes peuvent s'honorer d'avoir suscité un texte aussi magnifique. Je l'ai relu encore, c'est vraiment un texte prodigieux de Sartre. C'est pas simplement une préface comme il a pu faire pour Blanchot ou pour Nathalie Sarraute, hein, mais c'est quasiment un texte, il n'a pas l'ampleur du Genet. Heureusement pour vous, il ne vous a pas tout d'un coup synthétisé dans une espèce de grande...
Je n'avais pas d'œuvre derrière moi non plus.
Machinerie, oui. Mais il ne vous a pas écrasé par une préface terrible, mais il a écrit vraiment un texte où lui-même d'ailleurs est très présent, s'engage, c'est un texte à la fois philosophique, un texte très personnel, avec un ton aussi assez incroyable. Je voudrais juste en citer un passage donc de ce texte que Sartre consacre à votre premier livre. C'est pas exactement votre premier livre, on le voit, en tout cas votre premier livre qui va être publié. Il parle de vous, Sartre, il dit « Il vient d'achever son traité de philosophie. Il prend du recul pour le regarder, et toute la mystification s'évanouit. La pensée de l'universel s'est resserrée, condensée. Elle a pris de la physionomie, elle lui ressemble. Il est à l'origine d'un objet surnuméraire, cette liasse de feuillets dactylographiés. Et du même coup, il s'y est emprisonné. Depuis longtemps déjà, les autres prétendaient le retrouver tout entier dans ses gestes les plus ordinaires, dans sa manière de manger, de s'asseoir, d'ouvrir un télégramme. Ah, c'est bien de toi, c'est tout à fait toi. Je te reconnais bien là. Ce que tu fais là, c'est du Gortz, tout pur, tout craché. Dieu sait s'il s'en irritait. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire, justement, si ce n'est un geste volumineux qui s'est refermé sur lui? Les autres vont être trop contents. Ils se pencheront sur les parois transparentes de sa prison et ils le reconnaîtront. Cette façon d'écrire, mon vieux, de te corriger, d'entrer dans le sujet petit à petit, de le tâter de l'orteil avant d'y plonger. Mais c'est toi, c'est bien de toi, c'est tout toi. Et ces idées, mon vieux, mon pauvre vieux, c'est du Gortz tout craché. Un diable dans une bouteille. Pour ouvrir les boîtes de conserve, les pensées d'autrui, son parapluie, il n'a qu'un seul et même geste, un seul pour entrer dans les vues d'un philosophe du XVIIe siècle et dans l'appartement d'un camarade, d'une jeune femme. Il reprend une à une les phrases de son livre, geste, geste, geste. Gortz est là, sous ses yeux, il tend son long cou, il pince ses lèvres minces, telles qu'en lui-même enfin. En somme, il a tenté de vivre et il a perdu. Il sait à présent qu'il était forcé de perdre et que d'ailleurs, il y était secrètement. Résolu.
C'est
magnifique. D'ailleurs, toute la préface est une immense préface, hein, et magnifique. Et en même temps, on retrouve aussi un peu la formule sartrienne qu'il développe à propos de Flaubert aussi, le qui perd gagne. Non ? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu ici de qui perd gagne ? Alors, il faudrait peut-être aussi raconter aux auditeurs cette expérience, parce que ce livre, ce trait, ce n'est pas votre premier livre, et il évoque, d'ailleurs Sartre évoque, un énorme manuscrit que vous lui avez apporté. Un manuscrit, donc, c'est votre première grande œuvre philosophique. Et alors, est-ce que vous pourriez raconter cette expérience de cet opus que vous avez voulu faire lire à Sartre ?
J'avais entrepris en 1946 ou 7 d'écrire la suite de Lettres à une Néant, c'est-à-dire de vouloir répondre aux questions qui sont posées au début et à la fin de Lettres à une Néant, particulièrement qu'est-ce que l'authenticité, qu'est-ce que le moral de salut, qu'est-ce que la conversion existentielle qui prend la liberté pour fin en tant que source de toute valeur et valeur suprême. Et je me suis aperçu que les outils de l'être ayant ne permettaient pas cette entreprise. Que dans l'être ayant, il y a une seule valeur, non différenciée, mais qu'il y a trois extases temporelles, donc passé, présent, futur. Et que Sartre montre bien que ces trois extases temporelles n'ont pas la même structure ontologique. Je me suis dit, là, il y a une mine à exploiter, à savoir, la valeur peut se différencier selon la prééminence qu'un homme, qu'une femme, donne à l'importance de l'une ou de l'autre des extases, donc des dimensions temporelles. Et je voudrais dire que l'entreprise, pour illustrer cette différence entre ce que j'appelle des choix éthiques, c'est-à-dire vouloir se donner la première importance au vécu du présent, donner la principale importance à l'héritage du passé, ou au contraire à la construction du futur, permet de distinguer un certain nombre et de hiérarchiser d'attitudes ou de dispositions que je décris. Je trouve que la clé a ouvert des tas de serrures, sauf bien sûr que le rapport au futur n'est pas une attitude, puisque le futur doit totaliser à la fois le passé, le présent et le monde environnant. Donc ça, c'était l'entreprise. J'appelais ça fondement pour une mal. Et il y a la définition d'une éthique, de la liberté ou de la libération. J'ai essayé de montrer comment ce que ça veut dire que de prendre pour valeur suprême la liberté en tant que fondement de toute valeur. Et les illustrations, même dans la fin, les parties sur fin et moyen, sur le rapport à la mort, etc., me paraissent être d'une actualité qui n'a rien perdu. Il y a des portraits dedans, comme le portrait de l'ingénieur, du technicien, qui ne s'intéresse qu'à la technicisation, à la domination instrumentale du monde, sans se poser des questions de fin.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, vous avez un livre de philosophie qui, comme vous dites, pourrait être la suite de L'être aimant. D'ailleurs, L'être aimant se termine par le projet d'une morale que Sartre n'a jamais écrite. Et vous n'écrivez pas une morale, bien sûr, parce que vous ne voulez pas vous enfermer dans une quelconque taxinomie des valeurs, mais vous écrivez donc des fondements. Alors, il faut quand même préciser que c'est un livre énorme, donc qui fait 600 pages, que vous n'avez pas fait paraître tout de suite.
Mais qui n'a pas trouvé d'éditeur,
oui,
évidemment.
Et on peut dire que c'est quand même aussi, il faut rendre aussi hommage à Galilée et à Michel Delorme, qui ont accueilli donc cet ouvrage et aussi la plupart de votre œuvre. Ce sont 700 pages effectivement, et vous parliez d'actualité. Je crois effectivement aujourd'hui, il me semble qu'il y a un renouveau aussi quand même d'une perspective antinaturaliste aussi très forte, d'un renouveau sur la question de la subjectivité, des postures existentielles aussi, et qui avait peut-être été un peu évincé par la période de structuralisme. Et je suis frappé aussi à la relecture de l'actualité aussi de cette réflexion.
Le portrait, si on peut dire, du manichéiste, du manichéen, c'est le terroriste aujourd'hui. Il ne s'agit pas le monde et le mal, il faut le détruire. Vous avez ça dans le terrorisme islamiste. Tout est mal sauf une identité d'origine religieuse, et ça vous légitime à vouloir détruire tout, y compris vous-même. Hein, très important ça. Le terroriste est quelqu'un qui se fait sauter lui-même en faisant sauter le monde.
Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au trajet de Sartre, on voit bien que ici, à partir d'une réflexion philosophique, d'anthologie, vous ensuite vous passez à une réflexion, donc très logiquement, hein, mais à une réflexion de type socio-économique, mais à partir d'une expérience des luttes, à partir d'une expérience du travail, des luttes ouvrières. Alors que bon, on peut dire quand même que Sartre, lorsqu'il laisse son essai d'anthologie phénoménologique pour passer vraiment au marxisme. Vous avez évoqué la critique de raison dialectique, c'est plutôt une démarche, je dirais, intellectuelle, même si Sartre ensuite s'est engagé dans les luttes sociales. C'était plus, je dirais, en tant qu'intellectuel qui se met au service d'une cause, alors qu'on voit bien que chez vous, il y a véritablement un travail sur, je dirais, des positivités sociales, c'est-à-dire une façon pour vous aussi de comprendre, d'interroger, d'étudier comment ça se passe, ce que c'est que l'aliénation, pas simplement d'un point de vue conceptuel hegeliano-marxiste, hein, mais sur le terrain, c'est-à-dire dans les usines, ce que ça signifie exploitation, aliénation.
Ce qui m'a toujours étonné, c'est que Sartre avait un complexe d'intellectuel bourgeois.
Oui.
Et que j'étais beaucoup moins lesté de culture que lui. Je n'ai jamais été enseignante, je n'ai pas de diplôme universitaire, j'ai un petit diplôme d'ingénieur. Donc pour moi, il n'y avait pas cette culpabilité de l'intellectuel bourgeois vis-à-vis de l'ouvrier. Et j'ai constaté que les ouvriers étaient d'aussi bons intellectuels que les intellectuels bourgeois, et qu'ils avaient même envie de discuter, d'avoir des concours d'intellectuels bourgeois ou pas. Ça les aidait à avancer dans leur propre pensée.
Dans votre réflexion philosophique, on sent aussi une critique de la rationalité économique, et c'est une chose aussi qui revient régulièrement dans vos ouvrages. Là, on parlait des ouvrages donc des années 60, mais aussi des ouvrages des années 80, dans Les Chemins du Paradis, L'Agonie du Capital, en 83, ou en 88, dans Métamorphose du Travail, critique de la raison économique. On sent bien que, à la fois, vous faites un diagnostic, le diagnostic finalement d'un ordre capitaliste qui survit à lui-même, qui est mort-vivant. Vous dites qu'il s'agit d'une mutation dont nous n'arrivons pas à prendre la mesure, parce que nous sommes toujours obsédés par le retour à ce qui n'est plus, c'est-à-dire à la révolution industrielle, à l'augmentation de la richesse et à des politiques de plein emploi. Dans Métamorphose du travail, donc vous aussi, de manière philosophique aussi, vous critiquez l'évaluation économique de toutes les activités humaines et leur régulation par l'argent. Vous dénoncez le divorce du travail et de la vie, et vous cherchez à remettre en quelque sorte la raison économique à une place subalterne. Hein. C'est une critique que vous formulez donc très nettement dès le début des années 80, et c'est quelque chose qui va être largement repris ensuite pour dénoncer l'horreur économique. Mais pour vous, c'est toujours dans l'idée de poursuivre l'émancipation et le libre épanouissement des personnes, indépendamment d'une rationalité économique.
Et le début de cette préoccupation, ça a été écologie et politique.
Oui.
Pour moi, l'écologie était l'outil idéal pour faire une critique positive de l'économie. C'est-à-dire pour montrer que toute richesse, toute la création de richesse, a un fondement qui n'est pas économique, qui est pré-économique, post-économique, qui renvoie à une toute autre forme d'économie ou de rapport à la nature et à la matérialité que l'économie capitaliste. C'est un thème, c'est la différence et même la contradiction entre richesse et valeur. Nous vivons, avec l'économie capitaliste, sous un régime où l'important, le but de toute activité, n'est pas la création de richesse, c'est la création de valeur, c'est la création de choses échangeables et monnayables. Et ce qui n'est pas monnayable n'a pas de statut dans l'économie capitaliste. Donc, l'amour, l'affection, la solidarité, le soin pris de la nature, tout le qualitatif, est éliminé par la rationalité de la valeur, la dictature de la valeur. Cet aspect, donc, Marx n'est pas le théoricien de l'économie politique, il est le critique de l'économie politique. Et à travers de l'économie politique, il critique toute l'économie fondée sur l'échange, sur la marchandise. Ça, c'est une évidence qui a saisi et qui m'a été présentée très tôt par Jean-Marie Vincent, qui n'est pas assez connu, qui a écrit un an avant moi une critique du travail, en 87, un livre extraordinaire, qui a été mon initiateur dans Marx. Il m'a fait lire les Grandes Tricées avant même qu'il soit traduit, et vous le retrouvez aujourd'hui, j'aimerais le signaler, chez un marxiste américain qui a fait ses études à Francfort, qui a étudié avec Adorno, Horkheim, donc qui connaît la théorie critique de l'école de Francfort. Pour qui ça n'a aucun secret. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Temps, travail et domination sociale, une réinterprétation de la théorie critique de Karl Marx ». Ce livre n'est pas traduit en français, je vous donne le titre anglais, il a paru en revanche en Allemagne, en allemand. Et c'est un ouvrage qui fait tout au long la différence entre valeur et richesse et montre que la valeur est une entrave à la création de richesse. Et que la critique du capitalisme du point de vue du travail tel qu'il existe, c'est-à-dire du travail salarié, du salariat, de la classe ouvrière salariée, n'est pas une critique de l'économie politique. Parce que le travail marchandise, le travail emploi, est l'autre face du capital. Et c'est la même monnaie, la même pièce qui a deux faces, le capital et le travail. Les deux sont indissociables. Si on veut se débarrasser du capital, il faut se débarrasser du travail. Tiens, ça se trouve déjà chez le jeune Marx, qui dit la révolution communiste se distingue de toutes les autres par le fait qu'elle ne redistribue pas le travail, elle l'abolit.
Quel est le nom de cet auteur ?
Moïse Postone.
On va le lire. Vous évoquez justement la classe ouvrière. Il me semble que dans votre réflexion, quand même, et peut-être ça a été l'écologie qui a été le point de prise de conscience, mais il y a une évolution parce que quand vous écrivez en 1969, Réforme et Révolution, hein, qui est paru au Seuil. En quelque sorte, votre réflexion vient juste après 68, et on voit bien ici l'ancrage marxiste de vos analyses. Vous rappelez d'ailleurs, ce qui est premier, c'est la lutte des classes, mais vous dites en même temps qu'il faut aussi attaquer l'idéologie dominante, pas simplement s'en tenir aux infrastructures, parce que la bataille est aussi culturelle au niveau de la civilisation. Donc vous évoquez aussi la nécessité de penser le socialisme comme une forme supérieure de la rationalité. Et puis arrive un peu plus de dix ans plus tard, en 1980, un texte qui a été très important, qui a été un choc, je crois aussi pour beaucoup d'entre nous, Adieu au prolétariat, au-delà du socialisme, qui paraît chez Galilée en 80. Donc. Et là, vous formulez une critique de l'égalianisme de Marx, une critique de la détermination de l'histoire par l'activité productrice, une critique aussi de la religiosité de cette philosophie du prolétariat, et dont vous nous amenez à penser autrement que selon un strict schéma classiste. Vous proposez comme analyse d'ailleurs l'idée que le capital fait croître la puissance technique du prolétariat et décroître sa puissance comme individu, comme équipe, comme groupe, mais en même temps vous proposez de dépasser cette simple idée d'une lutte des classes qui est dépassée parce que nous ne sommes plus dans une logique d'affrontement, de domination stricte avec une classe repérable qui serait celle du prolétariat révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qui a constitué en fait quelque sorte la fracture entre, ou l'évolution, je ne sais pas comment dire, entre cette période donc plus marxiste et puis ce moment où vous repensez la division sociale?
Ça a été la critique de la technique. Je croyais que j'avais développé la critique de la technique avec la rencontre d'Ilitch, Ivan Ilitch, qui était très important. Et j'ai découvert tout récemment que cette critique de la technique se trouve déjà dans un texte de 70-71 qui n'a paru qu'en italien. Mais vous le trouvez, si vous voulez, chez Marcuse, que les moyens de production ne sont pas simplement des outils pour produire, ce sont des outils de domination. Que la domination qui permet l'exploitation donc de la classe ouvrière n'est pas une domination par des hommes, c'est une domination par des outils conçus par les hommes pour fonctionner comme moyen de domination. Le socialisme ne vaut pas mieux que le capitalisme s'il ne change pas les outils de production. C'est ça le fin fond des avis au prolétariat. On ne faut pas compter sur la classe ouvrière telle qu'elle a été façonnée, formée, idéologiquement et dans sa structure sociale par le capitalisme pour faire une révolution ou pour abolir le capitalisme. Ce qui peut abolir le capitalisme, ce sont des travailleurs qui ne sont plus des assujettis du capital, qui se sont libérés de cet assujettissement-là, qui savent qu'ils sont des producteurs de richesse et ne veulent plus être des producteurs de valeur, de marchandises échangeables, qui ne veulent plus vendre leur force de travail, mais en disposer pour la création sociale, de richesse sociale. Et ce livre a déclenché des discussions internes en Allemagne. Il a été imprimé, réimprimé en édition pirate, il a dû faire facilement 50 000 exemplaires. Et donc, à la suite de ces discussions internes aux jeunesses socialistes, aux syndicats, le directeur de l'école de formation des cadres, des militants en Allemagne, comme je ne voulais pas aller là-bas, m'a envoyé un car avec 43 élèves ou militants syndicaux et politiques. Il a loué une maison, il l'a loué à la CFDT dans la banlieue, et pendant 3 jours, on a discuté. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert les Allemands et l'Allemagne. Je n'avais jamais été en Allemagne. Et j'ai redécouvert la langue allemande, je n'avais jamais parlé allemand. C'était en 83, donc. Jusque-là, je ne parlais plus allemand depuis 40. Et là, j'ai réappris l'allemand, j'ai découvert une génération de gens qui n'avaient rien à envier, qui valaient au moins aussi bien que les gauchistes les plus subversifs en France. Et qui avaient une notion, c'est-à-dire qu'il faut changer la culture, il faut changer la vision des choses. Ce n'est pas la prise du pouvoir qui compte. C'est l'invention de modes de vie, de modes de pensée post-capitaliste. Et ensuite, on verra s'ils prennent. Mais il faut faire des expériences qui leur permettent de devenir exemplaires et attirants, séduisants.
Oui. Alors, un élément très important, évidemment, de votre réflexion, c'est la critique du travail. Alors, c'est un enjeu philosophique aussi, parce que on sait très bien qu'il y a des philosophes qui considèrent qu'effectivement que le travail, ça fait partie même de l'essence humaine, hein, de sortir de l'immédiat pour se constituer en tant qu'être humain par le travail. Et d'ailleurs, il y a même des philosophes qui ont pris des positions comme ça au moment des 35 heures en France, hein, en rappelant que voilà, c'était, il fallait surtout pas dévaloriser la notion de travail. Alors, vous, en fait, vous critiquez surtout la notion de travail aliéné dont la finalité a été réduite au profit. Vous expliquez que le travail n'est plus une activité propre du travailleur, mais c'est une activité passive, hein, assujettie au fonctionnement technique, vous venez de l'évoquer. Alors on trouve cela déjà dans les adieux au prolétariat, avec l'idée que la vraie vie pour vous commence hors du travail. Le travail devient un moyen pour élargir la sphère du non-travail. Alors, comment distinguer ce que vous expliquez de cette société du loisir? Parce que ce n'est pas exactement la même chose que le loisir consommateur, et ce que vous essayez de valoriser toujours, hein, c'est beaucoup plus l'activité autonome. Alors, qu'est-ce qui fait la distinction entre justement cette sphère de l'autonomie et cette société du loisir et de la consommation?
Je crois que j'ai eu tort d'employer le terme de sphère de l'autonomie, car il n'y a pas de sphère de l'autonomie. La sphère du loisir est elle-même pénétrée par la dictature de la valeur, c'est-à-dire de la marchandise. Et il y a des marchands de loisirs, il y a une industrie du loisir, il y a une industrie culturelle, et on ne peut pas parler de sphère du loisir ni même comme d'une naissance spontanée de la sphère du loisir par réduction de la durée du travail. Il y a de moins en moins de travail. Il pourrait y avoir de plus en plus d'espace d'auto-activité. La stratégie de domination du capital consiste à empêcher la naissance d'espace d'auto-activité et à conduire les gens à considérer que le travail rémunéré, le travail marchandise, le travail emploi est indispensable à leur dignité et à leur épanouissement personnel. En réalité, maintenir les gens dans la perspective du travail emploi, alors qu'il y en a de moins en moins, qui est de plus en plus fractionné, de plus en plus précaire, de plus en plus surexploité et de moins en moins assuré, c'est une stratégie de domination. Ça veut dire qu'il faut que les gens se battent pour l'emploi qui existe de moins en moins. Comme ça, ils accepteront des salaires plus bas, des conditions de travail plus épouvantables, etc. etc. Donc, pour n'importe quelle politique d'émancipation culturelle, sociale, il faut qu'on brise avec l'imaginaire du travail. Non pas du travail au sens anthropologique, c'est-à-dire du travail qui façonne votre environnement, mais du travail marchandise qui vous met sous la dépendance et dans la dépendance pour tous vos besoins et vous oblige à acheter contre de l'argent tout ce qu'il vous faut. Il y a Hannah Arendt qui a dit « Pour avoir une société de travail, il suffit que tout doive être acheté. »
André Gors, on sent évidemment que votre utopie, qui est si importante par rapport aussi à une critique politique, hein, est aussi une utopie concrète. Cette utopie, elle implique aussi une idée de la réappropriation par les individus, à la fois de l'autonomie, mais aussi de leur existence sociale. À une échelle historique, vous évoquez dans cette utopie, cette nécessité d'en sortir, vous évoquez le mot, c'est dans Misère du présent et richesse du possible, hein, paru en 97 chez Galilée, vous évoquez quand même la nécessité de l'exode.
C'est une métaphore. C'est-à-dire, il s'agit de quitter la terre, l'humus sur lequel nous sommes installés, de la société de l'emploi, du salaire et de la marchandise. De la quitter mentalement, spirituellement, pour pouvoir la quitter, la préparer matériellement. C'est ça le sens de l'exode.
Alors cet exode, qui vient de quoi? Alors d'un sujet historique. Y a-t-il encore un sujet de l'histoire ou de cette histoire?
Donc cette rupture est le fait d'un mouvement très dispersé, mais qui a de nombreux praticiens. D'après mes lectures, je n'ai pas d'autres sources, 25% de la population américaine a réduit son niveau de vie pour avoir plus de temps disponible. C'est important. Et parmi ces 25%, il y a une forte proportion d'informaticiens. Pourquoi ? C'est ce qui est d'autant plus intéressant que les informaticiens, surtout de haut niveau, sont la force de travail ou la force de production la plus importante et la plus indispensable de l'économie actuelle. Sans eux, rien ne marche plus. Mais en même temps, la productivité et la fonction de ces informaticiens exigent un perpétuel travail sur soi, d'auto-épanouissement de vos facultés intellectuelles et j'ajouterai culturelles et morales. Ces gens dont la créativité dépend du temps qu'ils ont pour leur auto-épanouissement tiennent à ne pas ni vendre leur force de travail ni être limités dans leur épanouissement par la nature du travail qu'ils ont à faire. C'est pour ça, à un moment donné, quand ils ont fait suffisamment d'économies, ils rompent intérieurement et en partie matériellement avec le système. Ils font une semaine de 2 jours ou une année de 3 mois et pour le reste du temps, ils travaillent sur eux-mêmes. Ils lisent beaucoup, ils font de la musique, ils ont des activités culturelles et ils ont des activités associatives et familiales. Donc vous avez à l'intérieur de la société un mouvement qui mine la société dans ce qu'elle a de plus propulsif, de plus moteur en elle, qui sont ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que à la page 596 de l'édition allemande des Grundrisse de Marx, il envisage exactement cette perspective en disant, à un moment donné, les travailleurs seront capables de s'approprier non seulement les moyens de travail, mais ils pourront s'approprier ce qui jusqu'à présent était le surtravail. Ils s'approprieront le surtravail en utilisant leur productivité à dégager du temps pour leur propre développement et le résultat en sera un développement si rapide des forces de production que tout le monde pourra jouir d'un maximum de temps disponible.
André Gortz, je voudrais terminer par cette notion d'utopie si importante. Et je voudrais citer une phrase de Misère du présent pour justement redonner un peu le sens de cette utopie dans votre œuvre. Je ne sais pas si ma manière de vouloir libérer des désirs, désentraver des imaginations aura été la bonne, ni si des politiques allant dans le sens des orientations que j'ai esquissées seront jamais conduites. À ceux qui les rejettent d'emblée comme utopie, je dis seulement que l'utopie, au sens que ce terme a pris chez Ernst Bloch ou chez Paul Ricoeur, a pour fonction de nous donner, par rapport à l'état de choses existant, le recul qui nous permette de juger ce que nous faisons à la lumière de ce que nous pourrions ou devrions faire. Merci beaucoup, André Gortz. Je vais renvoyer à vos livres. De toute façon, les auditeurs de France Culture retrouveront sur notre site l'ensemble de vos textes et les références. Je voudrais signaler en tout cas tout de suite que Le Traître va être réédité en livre de poche chez Folio Gallimard et qu'on retrouve la plupart de vos œuvres. Alors, pour les œuvres plus anciennes aux éditions du Seuil, mais la majeure partie jusqu'à aujourd'hui aux éditions Gallimard. C'était Philosophie en situation, présenté par François Noudelman, réalisation Pierrette Perronneau et Marcel Lebrun, attaché de production Marianne Chasseur. Notre prochaine émission, le 28 octobre, sera consacrée à Gilles Deleuze à l'occasion des 10 ans de sa mort. Et nous retrouvons Emmanuel Laurentin.